franceinter.fr. La science de l'environnement. En partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
L'affaire des vaches mortes de Roderen dans le Haut-Rhin, aujourd'hui à la une de la science avec en toile de fond le fameux dioxyde de titane. Vendredi dernier, le magazine Reporter révélait cette drôle d'histoire avec une question. Les émanations de l'usine alsacienne Cristal de Tann, qui produit surtout du dioxyde de titane sous forme de nanoparticules, sont-elles responsables de la mort de ces vaches? On pose la question avec vos invités, Axel Villard.
Oui, on est au téléphone avec le physiologiste Éric Oudot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au laboratoire Toxalim de l'INRA à Toulouse et auteur d'une des seules études en toxicologie animale qu'on ait aujourd'hui sur le dioxyde de titane. Et en studio, on est en direct avec Martin Cadoret pour le magazine reporter.net.
Bonjour. Bonjour.
Vous avez mené l'enquête et commencez d'ailleurs par nous résumer un peu votre enquête et cette drôle d'histoire.
Voilà, alors ça se passe dans une ferme de Tann, dans le Haut-Rhin, à proximité d'une usine de dioxyde de titane. À partir de 2014, les unes après les autres, des dizaines de vaches décèdent d'un mal mystérieux avec toujours les mêmes symptômes. Le nez qui coule, des abcès à la tête et au cou, puis des problèmes neurologiques et finalement la mort. Alors l'agriculteur, il fait appel aux services vétérinaires locaux qui ne trouvent rien. Jusqu'à ce qu'un consultant en environnement, Michael Lux, s'empare du sujet. Alors le lait, le foin, les sols, tout cela a été analysé. On retrouve du titane partout en grande quantité. Et puis il pousse un petit peu plus loin ses investigations. Il installe des filtres spécialisés et découvre les fameuses nanoparticules de dioxyde de titane ainsi que du tungstène, un autre produit qui est la signature de l'usine. Et puis en parallèle, les vaches, elles, ont été analysées plus particulièrement par la faculté de Berne en Suisse. Et là, les chercheurs découvrent une intoxication d'origine atmosphérique par la voie de l'air. On résume, nanoparticules retrouvées plus intoxication par voie aérienne. Tous les indices concordent pour au moins se poser la question d'une pollution aux nanoparticules.
Alors Éric Oudot, est-ce qu'on a déjà fait des tests toxicologiques sur des vaches? En gros, est-ce que le dioxyde de titane est connu pour être dangereux pour les vaches?
Bah, très clairement, non. Au jour d'aujourd'hui, la plupart des études qui sont menées dans les laboratoires le sont sur des animaux de laboratoire. Traditionnellement, c'est du rat, de la souris, du lapin, mais rien sur les animaux de ferme.
Et vous trouvez les questionnements de cet éleveur quand même légitimes vis-à-vis des résultats qui ont été énoncés juste avant ?
Je ne me prononcerai pas sur la légitimité, mais la question est définitivement posée dès le moment que je retrouve dans l'atmosphère et dans le fourrage, effectivement, une forte concentration de dioxyde de titane en l'occurrence.
Éric Oudot, justement, le dioxyde de titane, rappelez-nous où on peut trouver régulièrement ces produits ?
Bah, en ce qui concerne l'être humain, la population générale, on le retrouve sous plusieurs formes. La plus commune, c'est définitivement lorsqu'il est utilisé comme pigment de peinture. Dès que vous avez du blanc ou des couleurs claires dans un intérieur, le pigment blanc, l'opacifiant, c'est du dioxyde de titane. Le dioxyde de titane a aussi des propriétés biocides qu'on peut retrouver dans des ciments bio, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont être auto-nettoyants, des vitres auto-nettoyantes. Et puis l'usage aussi qui est très courant, c'est dans l'industrie agroalimentaire, on le retrouve sous la forme d'un additif alimentaire, le désormais bien connu E171, qui est retrouvé dans de la confiserie, dans de la pâtisserie, pour diverses utilisations, toujours comme pigment blanc, comme opacifiant, mais aussi comme brillance.
Alors, l'éleveur ici et l'autopsie évoquent des problèmes respiratoires. Est-ce que l'inhalation de ces particules est dangereuse? Est-ce qu'on en sait quelque chose?
Alors, on en sait effectivement quelque chose parce que c'est l'inhalation du dioxyde de titane qui a principalement été l'objet d'études en ce qui concerne l'exposition des travailleurs. Comprenez les gens qui produisent le dioxyde de titane ou les utilisateurs qui sont amenés à utiliser cette poudre. Depuis 2006, le Centre international de recherche contre le cancer avait conclu essentiellement sur la base d'études réalisées chez le rat que le dioxyde de titane par inhalation était un cancérogène possible pour l'homme, mais essentiellement à partir d'études chez l'animal. Donc les voies d'exposition par inhalation sont très très bien étudiées. C'est la voie intestinale qui est par contre bien moins étudiée dans ce cas de figure.
Martin Cadoret pour reporter.net.
Alors cette usine, elle produit du dioxyde de titane depuis 1922. Comment on fait la distinction entre les formes moléculaires et nano, qui est vraiment la plus récente?
Elle est plus récente. Disons que la présence de nanoparticules dans tout procédé de fabrication est fortuite d'abord parce qu'elle est issue du procédé de production, de sélection du dioxyde de titane. Il faut bien comprendre que le dioxyde de titane n'est pas présent dans cet état à l'état naturel. Il est issu d'un minerai qui est en profondeur. Il faut des systèmes de purification pour obtenir ce pigment blanc. Et ensuite, pour obtenir cette poudre, il est en fait concassé jusqu'à obtenir la taille des particules qui permettent d'avoir les meilleures propriétés d'opacifiant, de pigmentation. Donc pour déceler la forme nanoparticulaire qui, d'après une réglementation européenne, un avis de l'Europe, c'est toute particule qui est inférieure à 100 nanomètres, il faut des moyens de détection qui font appel à la microscopie électronique ou à d'autres moyens de détection, c'est-à-dire pour aller déceler la taille de particules vraiment ultra fines. Ce n'est pas à la portée de n'importe quel laboratoire.
Alors Martin Cadoré, justement, est-ce que vous avez contacté l'usine pour leur parler de cette histoire ?
Oui, alors je les ai contactés plusieurs fois et surtout j'ai reçu un appel vendredi d'un communicant du groupe qui m'a confirmé que l'usine rejetait les accusations. Pour eux, il n'y a aucun fondement scientifique, aucune preuve. Mais il m'a dit quelque chose qui m'a particulièrement étonné. Il m'a dit l'usine s'étonne que ce monsieur ait pu mesurer des nanoparticules. C'est terriblement complexe de pouvoir le faire et même eux ont du mal à le faire. Alors ça me suscite une question pour vous, Eric Oudot, si c'est si dur à mesurer, est-ce que les autorités sanitaires, elles sont armées pour détecter ces pollutions aux nanoparticules ?
Alors, les autorités sanitaires possèdent des laboratoires, c'est le cas de l'ANSES. Et bien souvent, ces laboratoires travaillent également avec des instituts de recherche comme l'INRA, comme notre centre Toxalim. Donc oui, effectivement, la plupart de ces laboratoires ont les moyens de faire ce type de mesure. Un microscope électronique est quand même un outil qui est quand même très courant dans des laboratoires, même si c'est pas à la portée de chacun. Toute la difficulté, c'est finalement de reconnaître quelle est la limite à partir de laquelle on considère qu'un produit peut être de nanoparticulaire. Et outre effectivement la mesure de taille, il y a d'autres particularités qu'il faut prendre en compte. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué, je le conçois.
Alors on imagine que ces vaches ont passé très longtemps à côté de cette usine. Je vous parle pas des vaches, mais est-ce qu'on connaît des résultats scientifiques sur une exposition chronique à ce dioxyde de titane ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que ce qui a été reproché pendant une dizaine d'années, c'est que la plupart du temps, les études qui étaient fournies sur le plan de la toxicologie étaient trop courtes en temps. On comprenait que c'était 24 heures, une semaine, voire un mois. Aujourd'hui, on considère, compte tenu du faible niveau de pénétration au niveau d'un organisme, qu'il faut définitivement aller au-delà de 45 jours et jusqu'à même 100 jours, c'est-à-dire réaliser des études chroniques pour pouvoir constater une éventuelle accumulation du produit dans des organes, que ce soit par voie aérienne ou par voie intestinale, et ensuite être capable de dire dans quelle mesure une toxicité est susceptible de s'installer.
Est-ce qu'on peut considérer que nous, aujourd'hui, on est exposé de manière chronique à ce produit ?
On peut considérer que tout être humain est effectivement par sa poussière, la poussière environnementale, c'est-à-dire les poussières de ciment, les poussières de peinture, que ce soit en intérieur ou en extérieur, on est exposé à ce genre de produit, c'est une évidence. Après, les niveaux d'exposition sont faibles, mais c'est vraiment la chronicité qui pose des questions. Et on manque d'informations sur les résultats d'une exposition chronique à ce type de produit.
Il y a une forte demande de la part de la population aujourd'hui sur le fait de mener des études autour des nanoparticules. Eric Oudot, quelles sont les pistes de recherche les plus importantes là, en ce moment en cours ?
Ce qui intéresse bien sûr la population générale à l'heure actuelle, c'est bel et bien l'additif alimentaire, le dioxyde de titane de qualité alimentaire, le E171 comme je citais tout à l'heure. Il est clair qu'on est exposé à des niveaux relativement conséquents, c'est-à-dire plusieurs milligrammes par kilo de poids corporel et par jour, et cela au quotidien et pendant très longtemps. On sait aujourd'hui que ce type de produit s'accumule dans la paroi de l'intestin, non seulement chez l'homme mais aussi chez l'animal, et on constate effectivement des troubles au niveau du système immunitaire. Et jusqu'à nous démontrer que chez le rat, on est capable d'observer au bout de 100 jours le développement de lésions dites pré-néoplasiques, c'est-à-dire les premiers stades, les stades précoces d'une cancérogenèse au niveau du côlon. Ce n'est pas la démonstration d'une pathologie finale, c'est déjà des premiers indices. Donc définitivement, effectivement, on est en droit aujourd'hui de réclamer plus d'études sur le E171 et le dioxyde de titane en général par voie orale pour apporter le maximum d'informations et appliquer une réglementation qui n'existe pas au jour d'aujourd'hui pour ce type de produits.
Vous parliez du côlon, est-ce qu'on peut imaginer un effet sur notre microbiote ?
Alors, effectivement, le côlon est rempli littéralement d'un quasiment un organe du soi, le microbiote, c'est-à-dire cet ensemble de bactéries qui participent à la digestion, qui participent aussi à renouveler l'épithélium de notre intestin, c'est vraiment une vie en symbiose. On sait que ce type de produit, le dioxyde de titane, ont des propriétés biocides, mais généralement ces propriétés biocides s'expriment à la lumière du jour, c'est-à-dire par photocatalyse. En ce qui concerne notre microbiote, vous comprenez bien qu'il fait un petit peu noir dans notre côlon, mais on peut quand même déceler des effets biocides. Reste à savoir si cet effet biocide est susceptible d'entraîner une toxicité quelconque, et on est loin encore d'avoir cette démonstration, mais c'est une piste d'étude qui n'est pas négligée.
Vous pouvez juste nous expliquer biocide en quelques mots ?
Biocide, c'est la capacité d'un produit à venir tuer des bactéries. C'est le cas du nano-argent. Le dioxyde de titane a également ses propriétés. C'est pour ça qu'on les retrouve, comme je le disais tout à l'heure, dans des vitrages auto-nettoyants ou des ciments auto-nettoyants pour empêcher que des lichens, des moisissures ne viennent pas s'installer dessus. C'est la propriété biocide, tueur de bactéries.
Est-ce qu'il y aura une suite à cette affaire, Martin Cadoret, a priori de la part de l'éleveur?
L'éleveur, là, pour l'instant, déjà, il est assez désemparé. Il veut pas vraiment apparaître. C'est un drame humain parce que lui, il a plus aucune vache. Il s'est reconverti dans l'agriculture céréalière. Mais les associations qui gravitent autour comptent bien donner des suites à cette affaire, même si on peut pas vraiment en dire plus pour le moment.
Et on peut en savoir plus, en tout cas, en allant sur le site reporter.net. Merci à vous et merci pour votre éclairage, Éric Oudot. Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'astéroïde à l'origine de l'extinction des dinosaures est tombé pile poil au mauvais endroit. Des chercheurs de l'université japonaise de Kōhoku montrent que s'il était tombé n'importe où ailleurs que dans la péninsule Yucatan au Mexique, les conséquences auraient été bien moindres et les dinosaures auraient certainement survécu. La conséquence principale de cet impact dévastateur a été le dégagement d'énormes quantités de suie dans l'atmosphère, due à la vaporisation des hydrocarbures dans les sous-sols du point d'impact. Selon les calculs des chercheurs, 87% des zones de la planète contenaient à cette époque moins d'hydrocarbures en sous-sol que la péninsule du Yucatan. Vous avez sûrement déjà entendu parler et entendu le son que font les pigeons en battant des ailes au décollage ou à l'atterrissage. Eh bien, une sorte de sifflement saccadé synchronisé avec le battement de leurs ailes. Mais savez-vous que ce son n'est pas émis par les cordes vocales de ces oiseaux, mais par leur plumage et plus exactement par la 8e plume de leur aile qui, grâce à sa forme particulière, siffle en fendant l'air. Des chercheurs australiens démontrent que ce bruit de plume sert de cri d'alarme pour les groupes de pigeons. Lorsqu'en présence d'un danger, l'un d'eux décolle avec précipitation, le simple bruit de son décollage et la fréquence du sifflement de ses ailes sert d'alerte au reste du groupe qui décolle sans même prendre la peine de chercher à savoir ce qui se passe. Et puis à la recherche de la vague parfaite, Kelly Slater, multi-champion du monde de surf, s'est associé avec un spécialiste de la mécanique des fluides pour créer un simulateur de vagues grandeur nature au centre de la Californie. Dans une piscine de 700 mètres de long, une lame de métal est tractée à plus de 30 km/h sur la longueur de la piscine pour générer la vague qui, elle, peut atteindre 2 mètres de haut et même former des rouleaux. Ce premier simulateur de vague grandeur nature est testé en ce moment même, donc par des surfeurs professionnels du monde entier. Et bien sûr, le champion espère pouvoir commercialiser son savoir-faire pour installer des piscines à surf partout dans le monde.